Amis, frères et sœurs, la grâce et la paix vous sont données ici et maintenant de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus le Christ, son Fils, notre Sauveur et notre Frère. Bienvenue à l'Oratoire du Louvre pour ce culte qui nous rassemble ce matin. Bienvenue à celles et ceux qui peut-être franchissent le seuil de ce temple pour la première fois. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent par le biais d'Internet ou des réseaux sociaux. Bienvenue et aussi un immense merci à Aurélien Peter qui nous accompagne à l'orgue ce matin. Nous pensons à toutes les personnes qui aujourd'hui sont réunies pour le culte de l'Assemblée du désert sous les châtaigniers de Mialet, dans le Gard, en particulier Béatrice et quelques amis de la paroisse et quelques conseillers de la paroisse. Alors que le monde reste troublé, alors qu'il nous plonge dans de nombreuses incertitudes, puissions-nous vivre ce culte, l'esprit au repos et le cœur apaisé. Pour cela, nous pouvons compter sur la parole qui éclaire notre route, mais aussi sur la musique et la poésie qui nous ouvrent des chemins de vie et d'intériorité. Prions ensemble. Père, tu es là, au milieu de nous. C'est toi qui nous offres ce temps de culte pour accueillir une parole qui féconde notre existence. Ce temps de culte, tu nous le donnes pour partager avec des frères et des sœurs notre adoration, notre chant et notre prière. Amen. Amen. Et merci. Pour ouvrir ce culte, je vous invite à prendre la liturgie qui se trouve au début du psautier français. Nous ouvrirons ce culte par le premier chant qui s'intitule « Bénissons Dieu le seul Seigneur ». Je vous invite à vous lever. Éternel, Dieu de la vie, celui qui chante à son histoire, à notre histoire au fond de lui. Celui qui chante rejoint le ciel et fait bouger l'ordre éternel. Il est heureux, malheureux comme nous, il cherche ce qu'il voudrait comme nous, mais quelque chose l'emporte au-dessus de tout. Celui qui chante retrouve la vie, retrouve le cri de l'enfant Dieu. Celui qui chante se sent grandir et sent sa force au bout des doigts. Il se cherche des raisons comme nous, il se pose des questions comme nous, mais quelque chose l'emporte au-dessus de tout. Celui qui chante devient si fort que rien au monde ne peut l'atteindre. Celui qui chante a des regards de vrai bonheur au fond des yeux. Il est heureux, malheureux comme nous, il cherche ce qu'il voudrait comme nous, mais quelque chose l'emporte au-dessus de tout. Frères et sœurs, je vous invite à poursuivre notre louange en prenant maintenant le chant du psaume 138, « Que tout mon cœur soit dans mon chant ». Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Prenez place. Écoutons à nouveau ce que Dieu attend de nous. Dans l'évangile de Marc, il est écrit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le grand et le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Prions et prenons le temps de dire à Dieu nos manquements. Éternel Dieu de la vie, il y a des rêves, des promesses, des mirages qui reviennent cent fois, des images et des lèvres, des visages, on n'est pas de bois. Et toutes ces lettres qu'on ne finit pas, et ces films, et ces livres, ces poèmes qui ne parlent que de ça, et ces yeux, ces regards, ces sourires qu'on ne croise qu'une seule fois, ce temps qui passe, tous ces mots qu'on ne dit pas. À quoi il sert cet amour qui est en nous? À qui on le donne? Tous ces rêves qui nous secouent, si c'est pour personne, à qui on l'avoue? À quoi elle sert cette musique qu'on joue partout? Pour qui elle sonne? Et notre corps qui bat, qui boue, à qui on le donne? À qui on l'avoue? Il y a des ciels, il y a des soirs, des étoiles qui nous donnent l'espoir. Il y a des matins, il y a des roses, il y a des bleus qui recouvrent le noir comme un début d'histoire. Éternel Dieu de la vie, je veux la mer, le soleil, des photos pour nous éblouir. Je veux pleurer pour un rien, espérer, attendre, courir et donner sans réfléchir. À quoi il sert cet amour qui est en nous? À qui on le donne? Ses colères et ses tabous, si c'est pour personne, à qui on l'avoue? À quoi elle sert cette vie qu'on vit malgré tout? À qui on la donne? Et pourquoi se battre jusqu'au bout si c'est pour personne? À qui on l'avoue?
Thank you.
pour accueillir le pardon que Dieu nous donne, je vous invite à vous lever. Autrefois, l'apôtre Paul écrivait « Maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. » Aujourd'hui, le poète dit « Mon frère, ma sœur, mon ami, n'oublie pas. Il n'y a vraiment que l'amour qui vaille la peine. Priez pour qu'il reste, priez pour qu'il vienne. » Pas celui qui dort au chaud dans la laine, mais le vrai, celui qui porte la vie ou la mort dans nos rêves. J'ai cherché très loin la lumière d'une étoile que j'avais dans les mains. Amoureux du présent, il ne me restait rien que le souffle du vent. Mais la parole m'a dit, il n'y a vraiment que l'amour qui vaille la peine. Il n'y a vraiment que l'amour pour vaincre la haine, pour vaincre l'ennui. La vie qui se traîne, le vrai, celui qui porte la vie ou la mort dans nos rêves, il n'y a vraiment que l'amour qui vaille la peine. Chantons à Dieu notre reconnaissance. Nous ne savons pas toujours confesser notre foi. Nous ne savons pas toujours rendre compte de l'espérance qui est en nous. On imagine souvent des phrases compliquées, alors que bien souvent, des mots simples suffisent. Je vous invite à vous unir à cette confession de foi écrite à la manière d'une poésie. Éternel Dieu de la vie, tu vois, moi, j'ai toi. Tu es ma lumière du jour, mon ultime recours. Et je t'appelle au secours, perdu dans la nuit qui m'entoure. Mais comment vivre dans un trou noir? Moi, j'ai besoin d'y voir. Tu es ma lumière du jour, tu es mon ultime recours. Si je t'appelle, tu accours, tu es mon premier secours, ma lumière du jour. Tu es ma lumière du jour, mon ultime recours. Et si le poids se fait trop lourd, j'appelle ton nom à mon secours, lumière du jour, ma lumière du jour. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre, d'éternité en éternité. Prenez place. Aujourd'hui, je vous invite à écouter un extrait de l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, les versets 21 à 25. Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches en disant « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quiconque, en effet, voudra sauver sa vie, la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi, la trouvera. » Éternel, merci pour ta parole. Ta parole qui reste une lumière sur le chemin de notre vie. Béni sois-tu. Amen. Dans le recueil Louanges et prières, nous prendrons maintenant le chant du cantique numéro 391. Cantique 391, nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Je vous invite à vous lever. Prenez place. Prions ensemble. Éternel, nous voici devant toi tels que nous sommes. Peut-être parmi nous y a-t-il des habitués de ta parole. Peut-être parmi nous y a-t-il des nouveaux qui entendent ta parole pour la première fois. Certains sont habitués à la rudesse de l'Évangile, d'autres un peu moins. Mais nous ne pouvons pas te rencontrer tout seuls. C'est pourquoi tu nous adresses, tu nous envoies, tu nous fais rejoindre des amis, des sœurs, des frères, qui eux aussi sont en marche, qui eux aussi cherchent avec les autres ce que ta parole veut dire. Alors, merci. Merci de donner ton esprit, ton souffle à chacun, chacune, afin que ce moment que nous allons partager autour de ta parole soit un événement qui féconde notre existence. Amen. Amis, frères et sœurs, dans les versets précédant ce texte que nous venons de lire, Jésus interroge ses disciples sur sa personne. Qui dit-on que je suis? Que disent les gens à mon sujet? Les réponses des disciples expriment les opinions du peuple et situent Jésus en le comparant à certains prophètes de la première alliance, comme Jérémie, Élie, ou plus proche d'eux, à Jean le Baptiste. Alors Jésus pose une autre question plus précise. « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Pierre donne alors cette parole, « Tu es le Christ ou le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Faisant ainsi le lien avec la notion de Dieu vivant présent dans le Premier Testament, ce Dieu qui s'oppose à toute forme d'idole muette. Pierre semble avoir bien répondu, se voit félicité en quelque sorte par Jésus et se voit confier une mission, celle de construire l'Église plus tard. Mais ce n'est pas le moment de brûler les étapes. Et pour éviter toute méprise, Jésus invite ses disciples à se taire. Cette révélation ne doit pas être divulguée. Puis Jésus enseigne ses disciples, pour qui Jésus est bien un envoyé de Dieu, tout en méconnaissant le caractère profond et décisif de sa mission. Et c'est pourquoi le discours de Jésus est à ce moment précis, celui que nous avons lu, d'une tonalité totalement différente. D'ailleurs, cela provoque des remous entre Pierre et Jésus, mais aussi entre les disciples et Jésus, que je vous propose de reprendre en trois étapes, ces trois étapes qui soutiendront notre méditation. Première étape, la fragilité de Pierre. Après avoir demandé le silence sur le dévoilement de son identité, Jésus parle ouvertement de sa mission. Et ce moment est important car il constitue un tournant dans son ministère. Jésus précise qu'il doit aller à Jérusalem, qu'il y souffrira de la part des anciens et des maîtres de la loi, qu'il y mourra et qu'il reviendra à la vie le troisième jour. C'est ce qu'il est convenu d'appeler la première annonce de la Passion. Il y en aura trois. La mission de Jésus passe par quelque chose d'inattendu, d'inouï. Il ira à Jérusalem non pour conquérir, mais pour servir. Et ce service passe par la souffrance qu'il aura à subir, par sa mort et sa résurrection. Mais sa destinée est d'abord de souffrir et de mourir, comme tout à chacun, et non pas à l'écart ou au sein du groupe des disciples, mais sur la place publique, à Jérusalem. Et non pas à cause du pouvoir romain en place à cette époque, mais par un autre pouvoir, celui des anciens, des grands prêtres et des scribes qui représentent l'autorité religieuse de son propre peuple, les siens. Et cela est totalement inaudible pour Pierre. Cela ne coïncide en aucune manière avec l'idée du Messie qu'il a confessé quelques instants auparavant. Alors, il prend Jésus à part et l'interroge, il le réprimande même. Et cette réprimande lui vaut une réaction cinglante de Jésus. « Arrière de moi, Satan, tu es un obstacle sur ma route. Tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les hommes. » Jésus n'est pas le Messie que Pierre attend. Pierre n'est pas prêt. Pierre est renvoyé à sa fragilité. Sa confession de foi doit être le point de départ d'un approfondissement et non le point de chute d'un aboutissement. Pierre n'est qu'au début de sa découverte. Et en ce sens-là, il est extraordinaire, attachant. Son itinéraire est rassurant pour chacun, chacune qui tente de répondre, si peu que ce soit, à l'appel du Christ. Pierre, appelé par Jésus sur le bord du lac, devient un pêcheur d'hommes. Il va à la découverte de lui-même. Il ne sait pas encore où sa réponse va le mener. Quand Pierre demande à Jésus de pouvoir le rejoindre en marchant sur l'eau, sa peur finit par l'emporter sur son enthousiasme. Il implore le secours de Jésus et Jésus lui reproche son manque de foi. Par ailleurs, Pierre est souvent le porte-parole du groupe des disciples. Quand il demande à Jésus une explication sur une parabole, par exemple, il s'entend reprocher le manque d'intelligence de tous. Au moment de la transfiguration, seul Pierre parle et propose de dresser trois tentes. Là aussi, il se trompe. Et Pierre n'est pas encore au bout de ses peines, à sa promesse d'être fidèle à Jésus jusque dans la mort. Jésus lui répond par l'annonce de son reniement. Et c'est cela qui fait de Pierre un être aussi attachant. Il est vulnérable, faillible, fragile, naïf. Il tâtonne, il se trompe, il se surestime, il doute, il a peur. Et c'est en avançant dans sa vie qu'il découvre sa foi, mais aussi ses doutes. Et au-delà de la foi qu'il vient de confesser, la réponse de Jésus lui fait comprendre qu'il lui faudra beaucoup plus de temps avec des étapes dont il ignore tout encore, comme celle du reniement puis de la réconciliation, pour apprendre qui est Jésus et connaître, accepter vraiment ce Jésus-là. Cette connaissance et cette acceptation ne se fondent pas sur la justesse des mots prononcés au moment de sa confession de foi, mais au terme d'un débat, voire même d'un combat qu'il aura avec Jésus jusqu'au bout. C'est une histoire qui commence au cours de laquelle sa foi va se construire, mûrir et s'approfondir. Pierre ne sait pas encore quel homme il va devenir. Dès lors qu'il aura vraiment donné sa réponse et prononcé son oui au Dieu de Jésus-Christ, prolongement, mais aussi innovation du Dieu de ses pères. Si là est le destin de Pierre, là aussi est le destin de tout disciple d'hier et d'aujourd'hui. C'est notre destin à nous aussi si nous décidons de répondre à son appel. Et quand Pierre aura vraiment accueilli Jésus comme le sauveur de sa vie, alors il sera le témoin dont parlent les Actes des Apôtres, le fondateur de cette église primitive, ne craignant même plus de donner sa propre vie comme martyr, même comme témoin, ayant trouvé sa vie en Christ, et non plus en ses propres forces. Deuxième étape, la difficulté d'être disciple. La démarche de foi inaugurée par Pierre lui donne une nouvelle identité. Tu es Pierre, et une nouvelle mission, je bâtirai mon église. Je donnerai les clés du royaume des cieux, comme nous le trouvons dans le texte précédent. En revanche, avec les versets d'aujourd'hui, un nouveau chemin est proposé. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. C'est un bouleversement radical qui se dessine à l'horizon, qui va changer à jamais les idées de Pierre et aussi celles des nouveaux croyants sur Dieu et sur le monde. Par ces paroles, Jésus inaugure une nouvelle façon de concevoir la relation à Dieu et la relation à l'autre. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il cesse de penser qu'à lui, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Dans notre contexte actuel, ces mots comme « renoncer à soi »,« porter sa croix »,« perdre sa vie » font frémir. Ils nous renvoient à une notion plutôt désagréable de sacrifice, ce qui résonne toujours étrangement à nos oreilles. Nous n'aimons pas beaucoup cela. Cela dit, on ne peut oublier que le mot « martyr » en grec, « martouros », veut dire « témoin ». Et on ne peut pas oublier que les premiers chrétiens donnaient leur témoignage jusqu'au don de leur propre vie au moment des persécutions. Force est de constater que nous n'oublions pas non plus les chrétiens d'aujourd'hui persécutés et exécutés à cause de leur foi dans certaines parties du monde. Alors, qu'en est-il pour nous qui ne nous sommes pas spécialement ou plus menacés ? Les paroles de Jésus nous invitent à un changement qui s'apparente plus à un changement de mentalité qu'à un martyr. Et suivre Jésus, c'est quitter un certain confort qui nous paralyse pour aller vers la vie et à la rencontre qui ouvre à la nouveauté et à la créativité. Si nous suivons Jésus, nous devenons des nomades. En fait, nous aurions tort d'oublier que l'Église est constituée essentiellement de témoins nomades qui n'ont pas de lieu où reposer leur tête. Comme les premiers chrétiens étaient des itinérants de la foi et de l'annonce de l'Évangile. Alors que de génération en génération, l'Église en tant qu'institution, toute confession confondue, peine tant à se réformer, alors qu'il y a un appel pressant, urgent à le faire, on peut se demander ce qu'est devenue cette parole. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il cesse de penser à lui-même. C'est une façon de se souvenir que l'Évangile est le contraire de la tranquillité et de la sécurité. Et c'est le moment de se souvenir aussi qu'il n'y a plus de place pour un ego, encore moins pour un ego surdimensionné. Et c'est bien là toute la difficulté d'être disciple, hier comme aujourd'hui. C'est là toute la difficulté de suivre ce Christ qui nous demande de faire place dans notre vie à un autre que nous-mêmes. Troisième étape, si suivre le Christ et répondre à son appel, cette réponse entraîne un mouvement, un déplacement dans tous les sens du terme. Tout d'abord, c'est découvrir chaque jour davantage qui je suis dans le sens du verbe suivre. Et c'est tous les jours que nous découvrons celui que nous suivons. À travers sa parole rapportée dans les évangiles, qu'il nous faut déchiffrer patiemment, découvrir, approfondir la prédication du Christ qui lutte inlassablement pour un être humain debout et voir comment cela résonne en nous. Sa prédication nous provoque, nous pousse dans nos retranchements et nous fait sortir de nos idées toutes faites à la fois sur Dieu et sur les êtres humains, parce qu'avec lui, personne n'est indigne de l'amour de Dieu. Avec lui, plus aucune maladie, plus aucune infirmité ne sont liées à une punition divine. Avec lui, les femmes, les enfants et les parias retrouvent une place dans la société civile et religieuse. Les lépreux, les fous, les pauvres, tous ceux que personne ne veut voir, Jésus les place devant nous, à travers les récits des évangiles, pour élargir la loi de Moïse aux dimensions du monde et dire à ce monde, qui était le sien à son époque, mais au nôtre aussi aujourd'hui, pour dire à celui ou celle qui voudra bien l'entendre la valeur infinie de chacune et de chacun. Ce qui fera dire plus tard à l'apôtre Paul que rien, absolument rien, pas même la mort, ne peut séparer l'être humain de l'amour de Dieu manifesté en Christ pour chacun, chacune. Est-ce que nous prenons seulement conscience de la puissance libératrice qui se dégage d'une affirmation comme celle-ci? Surtout quand elle est partagée avec des personnes qui se sentent indignes d'un tel amour, et je pense évidemment aux personnes détenues, par exemple. Les évangiles osent tout, la parole ose tout, et de ce fait, proclamer un tant soit peu ces évangiles, cela revient à soutenir l'action émancipatrice de Dieu en l'homme, comme l'écrivait si justement le théologien et pasteur Raphaël Picon. Alors, suivre le Christ, c'est effectivement abandonner quelque chose de soi-même pour accueillir quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, c'est non seulement Jésus, mais je découvre aussi qui je suis, moi, dans le sens du verbe être. Toi, moi, cette nouvelle personne que je découvre marchant à sa suite, mettant ses pas dans les siens, n'avançant plus les chines courbées et la tête baissée, mais comme quelqu'un déjà de sauvé et de ressuscité, regardant droit devant. Cette nouvelle personne que je deviens, non de manière prétentieuse, mais éclairée de la lumière d'une relation nouvelle avec lui et avec les autres, essayant à mon tour, tant bien que mal, d'ouvrir le chemin à celles et ceux que je rencontre, travaillant sans relâche là où d'autres hommes, d'autres femmes, d'autres enfants sont en attente d'une parole qui libère, là où d'autres personnes sont en souffrance, en esclavage, en solitude de tout genre, attendent un geste qui soulage. Croire que le christianisme n'est pas seulement une religion, mais aussi un humanisme. Aimer Dieu de tout son cœur, avons-nous dit au début de ce culte. Certes, mais aussi aimer son prochain comme soi-même. Croire en Dieu, écrivait encore Raphaël Picon, c'est croire en l'homme dans toute la justice, la beauté et la vérité dont il est capable, c'est-à-dire dans toute sa grâce. Amen. dans le recueil Louanges et prières, nous prendrons maintenant le cantique numéro 253. Cantique 253, et nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Je vous invite à vous lever. Prenez place et je cède la parole maintenant à Aurore pour quelques annonces.
Merci Agnès. Bonjour à tous. Bonjour à ceux qui nous suivent en ligne et puis à ceux qui nous regarderont tout à l'heure et qui ont suivi et qui sont à l'Assemblée du désert ce matin, puisqu'un groupe important est avec Béatrice Cléromazir, ta collègue. Et également avec Jean-Luc Buisson, le vice-président de notre conseil presbytéral, Irène Carbonnier, la secrétaire de notre conseil presbytéral, Juliette Wasson, notre ancienne trésorière, qui m'a envoyé des photos tout à l'heure que nous mettrons sur le site. Il y a également Caroline et Charbel, deux conseillers qui sont dans le groupe à l'Assemblée du désert. Donc n'hésitez pas l'année prochaine, si vous voulez rejoindre le groupe, ben, ce sera peut-être trois d'ailleurs. Tu referas ça encore pour nous ?
Oui.
Voilà.
Tout est possible.
Donc, un grand coucou à eux. Quelques annonces. Dimanche prochain, je te laisse le présenter. Nous n'avons pas un pasteur qui viendra en chair. Nous avons ce qu'on appelle un laïc, Jean Loignon, qui viendra prêcher à notre grand bonheur.
Tout à fait. Membre éminent de notre Église, ancien président du conseil presbytéral de Clamart et Sillé-Moulineaux, entre autres.
Théologien, historien,
qui viendra donc nous conduire dans la prédication.
Et qui écrit souvent dans Évangile et Liberté, un journal que nous aimons beaucoup. Et son dernier article, c'est de mémoire, c'est « Suis-je un homme féministe ?»
Ah oui, voilà, c'est ça, tout à fait.
Voilà, donc venez dimanche prochain, écoutez la parole interprétée
par Jean Loignon.
J'en profite à propos d'interprétation pour remercier Aurélien Peter, qui a interprété un auteur protestant, Michel Berger, tout au long de cette liturgie. J'espère que vous avez reconnu quelques-uns des morceaux connus de Johnny Hallyday.
Zut,
de
poser la question, et je voulais poser la question à la fin du culte, mais bon, ça fait rien.
Voilà, donc continue à écouter. Aurélien, un grand merci à toi. Dimanche d'après, le 17 septembre, c'est la journée du patrimoine, c'est également la rentrée de l'école biblique, donc c'est vraiment le moment d'inscrire vos enfants pour nous rejoindre le 16 et 17 septembre pour les journées du patrimoine. Ça sera aussi une occasion pour Béatrice Cléromazir de marquer les 400 ans de Pascal. Elle fera deux livres et spiritualité spécifiques sur le sujet. Et également, nous organiserons le dimanche, puisqu'Aurélien Peter ne sera pas là pour faire la démonstration de l'orgue qu'il fait tous les... J'allais dire, maintenant c'est devenu une tradition aux Journées du patrimoine qu'il nous fasse une conférence, concert sur l'orgue. Dimanche prochain, il préparera sa thèse de mémoire. Et donc, nous avons la chance d'avoir une organiste ukrainienne qui viendra faire un concert dimanche à 16h30, qui seront donc dont les bénéfices, entre guillemets bénéfices, seront en solidarité avec l'Ukraine. Donc ça, c'est le 17 septembre. Vous savez, nous sommes le premier dimanche du mois. Chaque premier dimanche du mois, nous donnons l'offrande, votre offrande, à l'association de l'entraide. À l'Oratoire du Louvre, il y a plusieurs associations que nous appelons satellites autour de l'Oratoire du Louvre. Il y a l'association de l'entraide, il y a les scouts également qui vont faire leur rentrée, les scouts de l'oratoire, il y a également le chœur de l'oratoire qui fait sa rentrée ce jeudi. Et toutes ces associations peuvent être soutenues au même titre que vous-même, paroissien de l'oratoire ou ami de l'oratoire, par l'association de l'entraide. Et donc c'est pour ça qu'une fois par mois, et je crois que nous sommes une des seules paroisses en France à le faire, nous dédions votre offrande à l'association de l'entraide. Donc vous avez ici même Gilles Deveau qui est président de l'entraide, Claire Lebouc qui est trésorière de l'association de l'entraide. C'est important que vous les visualisiez si vous avez besoin de quoi que ce soit. Ils sont là et c'est pour ça que je demande à Gilles de lancer l'offrande si tu veux bien venir jusqu'ici. Donc, je vous souhaite un bon dimanche et donc le don est également joyeux pour l'entraide. Je te laisse annoncer le...
Oui, bon dimanche à tous et merci d'avance pour votre générosité puisque le service d'entraide ne pourra aider les gens démunis que grâce à vos dons. Alors, je profite de l'occasion pour faire deux annonces particulières. La première, c'est rappeler notre collecte de produits d'hygiène pour l'association de Denise Brigou, Ensemble un cœur. Donc, il y a elle également besoin de dépanner des personnes en difficulté avec des produits d'hygiène. Donc vous pouvez les amener lorsque vous venez au temple et les déposer juste à l'entrée dans la première chapelle qui est à votre gauche. Et puis donc ça sera récupéré et transmis à l'association de Denise. Et puis j'en profite également pour vous annoncer la reprise des goûters conviviaux en octobre. Donc la prochaine session, c'est le 7 octobre. Donc vous êtes tous invités pour passer un moment agréable et très sympathique avec d'autres paroissiens. Voilà, donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Et puis donc on passe dans un petit instant pour la collecte au profit des bénéficiaires de l'entraide. Merci à tous et bon dimanche.
Merci Gilles. Dans la lettre de Paul aux Romains, nous lisons ce verset. Soyez dans la joie avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent. Dans le livre des Proverbes, nous lisons aussi cette exhortation à être la voix des sans-voix. C'est tout le sens de la prière d'intercession. Je vous invite à vous unir aux différentes prières, aux chansons, aux poésies qui sont écrites et chantées pour les autres qui souffrent, de quelque nom que s'appelle leur souffrance. Éternel, Dieu de la vie, à mon tour je te prie et je te chante. Sur les cendres de ma vie, sur les squelettes de mes guerres et de mes famines, sur les aridités de mes sécheresses, je te chante. Je te chante pour mes frères et pour mes sœurs qui ont perdu le chant et la joie. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal. Je veux chanter pour ceux qu'on oublie peu à peu et qui gardent au fond d'eux quelque chose qui fait mal. Chanter pour celui-là qui passe toute la nuit à regarder les étoiles en pensant qu'au bout du monde, il y a quelqu'un qui pense à lui. Chanter pour cette petite fille qui joue, qui ne veut plus jamais sourire, mais qui voit son père partout et qui s'est construit un empire. Qui a volé leur histoire? Qui a volé leur mémoire? Qui a piétiné leur vie comme on marche sur un miroir? Celui-là voudra des bombes, celui-là comptera les jours, en alignant des bâtons comme les barreaux d'une prison. Où qu'ils aillent, ils sont tristes à la fête. Où qu'ils aillent, ils sont seuls dans leur tête. Et quand je pense à eux, ça fait mal. Alors, éternel Dieu de la vie, chacun à notre manière, selon notre cœur, nous te confions celles et ceux qui ont demandé le secours de notre prière, de notre présence, d'une manière ou d'une autre, connue ou inconnue, et que nous te nommons dans le profond de nos cœurs. Et nous rassemblons nos prières imparfaites dans celles que Jésus a enseignées à ses disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Mon frère, ma sœur, mon ami, reçois encore ces quelques mots pour continuer ta route à la suite du Christ. Ce n'est pas la peine de vivre enfermé. Ce n'est pas la peine de rester couché. Je te donne sans rien demander. La vie, c'est déjà bien compliqué. Je te donne mes sourires moqueurs. Je te donne ma force, ma douceur. Je te donne mes secrets fragiles. La vie, c'est déjà si difficile. Donner pour donner, tout donner, c'est la seule façon d'aimer. Donner pour donner, c'est la seule façon de vivre, c'est la seule façon d'aimer. Alors, que l'amour de Dieu, qui dépasse absolument tout ce que nous pouvons imaginer, garde vos pensées, vos cœurs, vos jours et vos nuits, dès maintenant et à jamais. Allez dans l'amour de votre Seigneur. Amen. Je vous souhaite un très beau dimanche.